Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Alain Prost, Ayrton Senna, deux noms qui vont rarement l'un sans l'autre et qui ont marqué tous ceux qui, petits ou grands, comme on dit, professionnels ou amateurs, ont vécu cette époque lors de laquelle le Français et le Brésilien s'affrontaient pour la couronne mondiale en Formule 1. Et finalement, sait-on aujourd'hui, 30 ans plus tard, lequel était le meilleur? Alors cette question, nous n'aurons sans doute pas la prétention d'y répondre aujourd'hui, mais on va en profiter pour parler de cette époque exceptionnelle en compagnie d'un journaliste qui était aux premières loges de ce duel, Jean-Louis Moncey. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour à vous.
Commentateur pour TF1, journaliste, grand journaliste à Autoplus, qui nous fait l'immense honneur de se joindre à nous aujourd'hui, en compagnie également de Maxime Dupuis, auteur d'un superbe, j'insiste, grand récit à lire sur Eurosport.fr et intitulé Alain Prost, Ayrton Senna, la guerre à 300 km/h. Un grand récit que vous pouvez retrouver sur le site Eurosport.fr qui s'avale en une seule fois, tellement
un peu de minutes,
c'est passionnant. Ah oui, c'est fourni, mais c'est passionnant.
Et vous y retrouverez Jean-Louis aussi dedans.
Exactement. Et mon acolyte des fous du volant, Stéphane Vrignot. Salut Stéphane.
Salut Jean-Louis, salut Maxime, salut Gilles. Heureux d'être parmi vous.
Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Je le disais, Alain Prost, Ayrton Senna, très très souvent, quand on parle de l'un, on parle de l'autre. Jean-Louis, je vais vous poser la première question. Est-ce que ça s'est senti rapidement à l'émergence de Senna, on va y revenir, hein, mais que Prost était déjà en activité depuis un petit moment, installé, comme on dit. Est-ce que ça s'est senti très vite que ces deux-là allaient focaliser toutes les attentions?
Ça s'est senti rapidement, mais je ne dirais pas immédiatement. On l'a vraiment compris quand Senna a commencé à piloter pour Lotus, qu'il était extrêmement brillant. Il avait un moteur turbo qui lui permettait de faire des choses absolument formidables en qualification et donc, alors vous me direz, vous augmentez la pression du turbo, c'est les qualifications, mais enfin, pour le temps, il faut quand même le faire. Donc, il le faisait, et c'est là qu'on a compris que c'était vraiment l'une des futures grosses puissances de la F1. Et puis, quand il est arrivé chez McLaren, là, on a compris qu'il y aurait sans doute bagarre, duel, en tout cas, que c'est, vous savez, il n'y a pas d'amitié dans ces cas-là, c'est le meilleur qui gagne. On l'a vu très récemment aussi avec Hamilton et Rosberg, par exemple. Exactement. Donc, on a compris que c'était dur.
Alors, pour resituer un petit peu pour ceux qui sont un peu plus jeunes, Alain Prost a donc débuté sa carrière en Formule 1 en 1980 chez McLaren, contrairement à ce que beaucoup croient, hein, il n'a pas débuté chez Renault directement. Il a été champion du monde ensuite en 85 et en 86, là pour le coup, après son passage chez Renault en étant chez McLaren. Maxime, je faisais référence à ce papier que vous avez écrit et dans lequel j'ai repris vos mots parce que ça me paraît très très juste. On a souvent essayé d'opposer la personnalité d'Alain Prost et de Ayrton Senna en disant que c'était un peu l'eau et le feu. Moi, je vais reprendre vos termes parce qu'ils me paraissent plus justes. Prost cartésien et Senna un peu plus mystique.
Ah oui, il y a de ça, et c'est ce qui fait, je pense, la qualité de cette rivalité, parce qu'il y a la rivalité au volant, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de presque de physique et même de métaphysique, la différence entre les deux. Et ça pourrait même presque, on mettrait ça dans un film, que ça paraîtrait presque caricatural finalement de dire que vraiment ils sont opposés au possible. Et moi, ce qui me fascine, si je devais comparer, Prost pour moi, c'est un peu de la musique classique. C'est réglé comme du papier à musique. On évite les aspérités au volant, c'est clinique et on évite les vagues et on essaye de rendre le tout le plus cartésien possible. Et de l'autre côté, on a Senna, c'est le rock'n'roll, c'est-à-dire on fonce, on va tout droit, on veut gagner, c'est gagner ou rien. Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'il va un peu gagner aussi son titre en 88 parce que il gagne plus de courses que Prost. Quand Prost, lui, va marquer plus de points, mais à l'époque, c'est un autre règlement. Et Prost, on va dire qu'il. Ce qui est fascinant dans les deux, c'est que ces deux facettes du talent, c'est-à-dire qu'il y en a un qui maximise à 100% ce qu'il est capable de faire et l'autre qui va toujours chercher à la limite. Et aujourd'hui, pour faire le lien, on parlait tout à l'heure de très vite d'Hamilton et Rosberg, moi, c'est ce qui manque cruellement dans la F1, c'est d'avoir des vraies rivalités avec ces aspérités-là, avec deux personnages qui sont. Mais aux antipodes l'un de l'autre et qui rendent le spectacle encore fou. C'est un peu, ça me fait penser, vous savez, la Formule 1 de cette époque, c'est un grand film avec deux acteurs principaux qui le magnifient encore plus. C'est le parrain, c'est Brando et c'est Pacino, voilà, les deux en face, avec un jeune et un plus vieux, et deux types qui vont rendre le film encore plus dingue qu'il est. Et je trouve que, ça c'est mon avis, j'ai eu beau justement pendant l'écriture et même avec mon expérience, moi j'étais gamin à l'époque, je voyais ça avec mes yeux de gamin, je ne vois pas d'autres rivalités plus iconique et plus forte dans l'histoire du sport. Alors évidemment, on va se rapprocher peut-être à la boxe, voire le cyclisme, où il y a des mano à mano comme ça. Mais là, c'est tellement le yin et le yang qu'on a la rivalité ultime à mes yeux.
Et justement, c'est la question que j'allais poser à Jean-Louis, puis je poserai la même à Stéphane après. Jean-Louis, est-ce que vous avez retrouvé, vous, dans vos quelques années où vous avez suivi la Formule 1, une opposition aussi totale entre deux garçons?
Alors non, justement, alors déjà je vais féliciter Maxime parce que je n'avais absolument pas pensé à la musique classique ou au rock'n'roll. Très bonne définition. Et il m'est arrivé une toute petite aventure comme ça avec les copains d'un grand patron de salle qui s'appelle Marine Karmitz et qui m'a dit un jour, vous devriez écrire un livre sur la rivalité entre Senna et Prost. C'est comme les très grands moments de la corrida. Là, vous êtes trop jeunes tous les trois, mais c'était Luis Miguel Domínguez et Antonio Ordóñez qui ont été, après les débuts de la corrida, les grands, grands rivaux. Et le défaut qu'on a eu, je crois, c'est que à cette époque-là, on ne s'est pas rendu compte que c'était un duel formidable. Il y a Jacques X qui, un jour, m'avait dit, tu sais, on vit une époque, je pense que jamais on n'en avait eu une comme ça, et peut-être qu'on n'en revivra plus jamais. Eh bien, pour l'instant, je suis d'accord avec vous tous, on n'a pas eu un dialogue, je dirais, une opposition, un combat, un duel aussi terrible en F1 que cette époque-là. Et heureusement, on ne l'a pas manqué finalement, puisqu'on racontait les courses les unes après les autres. Mais c'est vrai qu'on se demandait toujours si on allait avoir ça. Vous savez, à un moment donné, j'ai rêvé que Mika Hakkinen serait le vrai rival de Michael Schumacher. Il en avait les qualités, il pouvait le faire. Mais intérieurement parlant, lui, Mika, il pensait qu'il surconduisait et il n'a pas voulu se risquer à un deuxième accident. Il a déjà eu un très grave accident à Adelaide en Australie. Il n'a pas voulu se risquer. Je le voyais, lui. Je lui disais, enfin, on va avoir un rival pour Schumacher. On l'a pas eu. Voilà. Eh bien, c'est la même chose avec Lewis Hamilton et Rosberg sur une année seulement. Mais Senna et Prost, ça a duré des années.
Stéphane, tu es d'accord? On retrouve pas une opposition aussi totale, en fait, et au long cours?
Oui, j'ai un petit peu réfléchi en préparant ce qui c'est plus fort Prost Senna, en me disant, mais est-ce qu'on a vécu quelque chose d'équivalent? Ma réponse, ça serait, il faudrait deux ou trois ou quatre saisons de suite, comme on en a vécu chez McLaren entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton, pour reproduire vraiment ce que c'était avec un monde clivé, avec deux personnalités très marquées. Et à l'époque, en fait, en 88, quand cette rivalité a explosé à la face du monde, les gens ont pris position très très vite parce que c'était deux personnalités et puis surtout c'était deux pilotes qui avaient des ADN très différents qui étaient séduisants l'un et l'autre. Sur le papier, c'était de la bombe. Prost, l'analytique, Senna, le flamboyant, Prost, peut-être le plus grand metteur au point châssis de tous les temps, Senna, certainement le pilote avec la plus grande sensibilité au niveau moteur de tous les temps, ça c'est clair. Et on réunit tout ça et dans la pratique, ça ne fonctionne pas parce que ça fait tout de suite des étincelles et c'est ça qui était magique. Mais Randonis nous a, chez McLaren, on l'a vécu pour l'histoire et aujourd'hui, c'est vrai qu'un patron d'équipe, quand il voit ces deux personnalités, il hésite et il n'y va pas. Et c'est un petit peu dommage. Et en 88, c'était exceptionnel parce qu'il n'y avait que Senna et Prost qui comptaient. Les autres voitures, Williams ou Ferrari ou Benetton, étaient parfois à un tour et ça n'intéressait personne. Il n'y en avait que pour Prost et Senna.
Je peux rajouter quelque chose sur les rivalités. On parle justement des rivalités avec Schumacher. Moi, j'ai vraiment grandi avec les grandes années Schumacher. C'est vrai qu'il y a Damon Hill à un moment, mais je me souviens d'une image, je crois que c'est au Grand Prix d'Europe, vérifié en 95, où Damon Hill applaudit Schumacher. Parce que je crois qu'il est sorti de piste et il se rend compte qu'il a perdu le titre, en fait. Et ça ne va pas. Senna n'aurait pas applaudi Prost et vice-versa. On a besoin de ça quand même. Et alors, je vais vous demander à vous, parce que vous serez mieux placé que moi pour répondre. Je me demande si sur le long terme, un Schumacher Villeneuve n'aurait pas pu ressembler à ça en termes d'état d'esprit.
Alors, avant de vous parler de Mika Hakkinen, je voulais vous parler de Jacques Villeneuve. Mmh. Moi aussi, j'ai pensé à ça. J'ai dit, évidemment, ça y est, on tient notre duel qui succède à Prost et Senna, Villeneuve-Schumacher. Et ça s'est éteint. S'est éteint parce que Jacques, c'était pas son truc. Il est parti autre chose sur une équipe. Garnier Kesson lui a reproché d'ailleurs de préférer gagner de l'argent plutôt que se battre pour les titres mondiaux. Ça, tout le monde le sait.
C'est paradoxal.
C'est paradoxal. Oui, bien sûr. Pour en revenir à ce que vous disiez, Maxime, je suis assez d'accord avec vous. Et je crois quand même que quand on a vu le yin et le yang, je ne me rappelle plus si c'est vous qui avez employé ce terme-là, mais il est formidable, c'était ça. Je dois reconnaître quand même, tout de même qu'il y avait, qui c'était le plus fort, il y avait quand même à la source des choses différentes. Il y en a un qui, Stéphane a parlé aussi du cartésien, etc. Non, il y avait surtout une famille. La famille d'Alain, modeste, pour ne pas dire très modeste. Okay. Alain, il a fallu qu'après son expérience en kart à la CSTA, qui est une boîte de nuit qui était à Antibes, il a fallu qu'il construise son propre kart, qu'il se débrouille, et surtout qu'il prépare lui-même les moteurs, des bons moteurs, et qu'il les prépare pour les autres pour gagner de l'argent pour continuer dans le karting. Ce qui n'a pas été le cas de Senna, qui est une famille aisée, pour ne pas dire très aisée, au Brésil, où tout de suite il a eu le kart pour s'entraîner, etc. etc. Donc c'était des gens, deux voies différentes. Et quand vous parlez des gens qui aimaient ou l'un ou l'autre, ça a joué aussi. Ça a joué parce qu'il y a des gens qui se reconnaissaient chez Prost en disant ben oui, voilà, il vient de très bas et il s'élève. Et puis, des autres qui disaient mais moi, j'aime ce mousquetaire formidable, ce d'Artagnan formidable, qui appartient à Senna. Et on peut comprendre les deux personnalités.
Alors, il y avait en gros 5 ans d'écart entre les deux. On ne peut pas parler d'un conflit de génération, mais il y avait effectivement aussi une lutte des classes. Ça rejoint ce que tu dis, Jean-Louis. Et puis, il y avait aussi le moment où Ayrton Senna se révèle, Monaco 84, sous la pluie, parce que là, on va se rendre compte que d'un seul coup, sous la pluie, il y a un magicien qui sait faire des choses que les autres, y compris Alain Prost, n'arrivent pas à faire. C'est un petit peu l'acte de naissance, en fait, de Ayrton Senna, la pluie.
Totalement, totalement. Ce Grand Prix-là, et puis le fait qu'il ait mis à la retraite aussi, il faut toujours penser à ça, un bon pilote qui était Johnny Cecotto, qui avait terriblement, magnifiquement brillé en moto, qui était pas mal du tout en voiture, puis tout d'un coup, on a vu qu'à voiture égale, Senna était plus fort. Mais le Grand Prix qui arrivait le Senna, c'est effectivement celui-là. Et sous la pluie, bah oui, c'était un maître de la pluie, il s'était très entraîné à cela, alors qu'à l'inverse, Prost détestait la pluie. Ça, c'est lui, conduire dans des conditions comme ça, je crois même que, comme plusieurs ingénieurs de Formule 1, d'ailleurs, ils disaient, les Formule 1, c'est pas fait pour rouler sous la pluie. On lui disait, non, mais c'est des voitures, il faut quand même le faire. Voilà, donc c'était ça la vraie différence.
Ce qui est drôle encore, pour revenir à ce que j'ai dit au début, c'est que ce Grand Prix, cette course qui est amputée, puisqu'elle va être arrêtée, alors que Senna fond sur Alain Prost, il cristallise aussi tout ce que sont les deux hommes. C'est ça, c'est qu'il y a le chevalier qui fonce sous la pluie, qui va revenir. Et alors, à tort, à raison, je ne sais pas, Prost qui profite d'une décision, on va dire, entre guillemets, juridique pour arrêter la course. Alors, elle ne lui servira pas à terme parce qu'il va lui manquer un peu de points pour être champion du monde. Il marque 4,5 points puisqu'on divise par deux. Mais c'est encore une fois, on mettrait ça dans un film, je pense qu'on dirait que c'est trop gros parce que la scène est presque trop grosse à rebours pour dire que tout est résumé. Et ce qui est intéressant aussi à la fin de Monaco, c'est que Senna déjà joue le petit. C'est-à-dire par rapport à Prost en disant, en gros, ouais, je sais ce que c'est de la politique. Et on parlait tout à l'heure de la classe sociale, mais elle est presque à front renversé parce que
Exactement.
Le Français qui vient du pays riche, et le Brésilien à l'époque, qui est encore un pays en voie de développement, qui lui est riche. Enfin, il y a tout qui s'entremêle et qui est presque caricatural et qui rend ça complètement passionnant.
Oui, mais alors, moi, je dirais juste que Senna, dans son choix de carrière, quand même, ne s'est pas comporté, je dirais, comme un bourgeois en choisissant Tolman. C'était quand même une écurie de fond de grille. Alors, la voiture a été faite quand même par Rory Byrne. Et quand on sait ce qu'il a fait après, c'était quand même assez sérieux. Mais il avait un besoin de reconnaissance. Et là, il était aussi quand même dans la transgression. Il n'était pas comme les autres parce que, drapeau rouge, il continue de foncer. Et lui, il se dit, si jamais il y a une entourloupe ou quelque chose qui s'est passé que je n'ai pas bien calculé, si Prost est sorti, si n'importe quoi, c'est à celui qui franchit le premier la ligne d'arrivée. Et ça, on lui a reproché après. Mais on sent toute la détermination qu'il y a. Dans cette course aussi, il y a un grand pilote qui s'appelle Stéphane Bellof aussi, qui méritait de briller aussi sous l'appui, qui a été magnifique. Mais Senna aussi, il en met un petit coup, il met un petit taquet aussi à Niki Lauda dans cette course. Niki Lauda qui va être champion du monde. Donc là, il s'est quand même posé sur ce dimanche-là sous la pluie.
J'ai une petite… Vas-y Jean-Louis, après je te poserai une question.
Juste dire qu'à ce moment-là, dans Monaco, et de ce Grand Prix de Monaco, il y a Lauda et Prost qui jouent le titre mondial, alors que Senna ne joue pas du tout. Ceci posé, je reviens sur la Tolman de Rory Byrne. Dès l'origine, on avait vu que c'était une voiture très originale, et après, Rory Byrne a montré chez Ferrari ce qu'il était capable de faire. Je referme la parenthèse technique pour dire, bon, ce jour-là, ben, oui, il fallait jouer la sécurité, alors que Senna, non, son rôle, c'est justement de profiter de cette occasion pour se mettre en valeur, et il a magnifiquement réussi.
Je voudrais juste te poser une petite question, Jean-Louis. C'est Jackie Hicks qui était le directeur de course sur ce Grand Prix de Monaco interrompu. Jackie Hicks qui avait des liens avec Porsche, tu me vois venir.
Oui.
Alain Prost roulait avec un moteur Porsche. Est-ce qu'il y a eu des pressions sur Jackie Hicks? On est quasiment 40 ans après. Est-ce qu'il y a eu des pressions?
La seule pression qu'il y ait pu avoir, elle ne vient certainement pas de Porsche. Elle vient plutôt de l'Automobile Club de Monaco. Quand vous êtes patron d'un circuit, quand vous êtes même, je dirais, propriétaire du circuit, ce que vous ne voulez pas voir, c'est des accidents monstrueux. Or là, la couche d'eau était telle que franchement, on n'y arrivait plus. Et je pense que Jackie Hicks, qui fait lui aussi partie des maîtres de la pluie, des 5 ou 6 plus grands pilotes de tous les temps sous la pluie, il s'est dit, c'est impossible qu'il continue comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait Alain Prost, mais d'autres pilotes aussi faisaient des signes en disant, on ne peut plus continuer comme ça. Et c'est ce dont Senna a profité. Il a eu raison d'ailleurs, parce que c'est ce qu'il a mis au firmament tout de suite. Mais Jackie Hicks n'en a pas eu de pression de Porsche, non, impossible. Ça veut... Surtout quand vous connaissez bien Jackie Hicks, comme je le connais, vous pouvez savoir que c'est quelqu'un d'une honnêteté foncière, ça ne peut pas arriver.
On va avancer un petit peu dans les années pour continuer à parler et à la fois de leur caractère et de leur carrière, parce que c'est très difficile en fait de faire la différence et de scinder les deux. Ils vont se retrouver donc à partir de 88 ensemble chez McLaren. À ce moment-là, Alain Prost a déjà deux titres mondiaux et il adoube l'arrivée de Ayrton Senna chez McLaren. Je crois qu'il était sur la shortlist avec Nelson Piquet et finalement le Français dit à Ron Dennis, ça serait mieux pour l'équipe d'avoir Senna.
Oui, alors déjà, dans son contrat, Alain, il n'y avait pas cette possibilité de dire « je veux tel ou tel pilote », car maintenant, ça existe. Dans le contrat. Et ensuite, oui, il a effectivement dit ça. Voilà, Senna, c'est un jeune et c'est plus l'avenir que Nelson Piquet, sans quoi Alain avait raison aussi. Et peut-être qu'il y avait un peu d'inimitié avec Nelson, parce qu'Alain, il a eu des inimitiés un peu dans tous les coins de la F1, mais tous les pilotes sont à peu près comme ça. Il y a rarement de grands amis. Hein. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais bien sûr que c'était l'occasion unique d'avoir un grand pilote avec soi, et c'était aussi une manière formidable, on l'a vu après, de partager le travail. Je veux rappeler quand même une anecdote, c'est que, non, c'est pas une anecdote, c'est un état de choses. Alain s'occupait des réglages du châssis, Ayrton s'occupait des moteurs. L'un de vous l'a déjà dit. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on a reproché à Honda de faire des moteurs spéciaux pour Senna. Et ça, c'est vrai que le jeune technicien qui recevait les moteurs de Honda en Angleterre voyait marqué sur les caisses d'emballage, j'allais dire les cartons d'emballage, sur les caisses d'emballage réservées pour Senna. Ce gars-là, vous pouvez toujours l'interviewer, c'est Otmar Szafnauer, c'est le patron de l'écurie Aston Martin aujourd'hui. C'est lui dont je parle. Mais ça ne veut pas dire que Honda faisait des meilleurs moteurs pour Senna. Je ne crois pas à cette espèce de lubie des gens qui pensent qu'un motoriste fait un bon moteur pour quelqu'un et un mauvais moteur pour l'autre. Non, Senna étant très sensible au moteur, Honda lui faisait essayer des choses qui auraient très bien pu lui éclater en pleine figure, d'ailleurs. Faut faire attention à ça. Je ne crois pas à Honda ayant préféré l'un ou l'autre. Non, Senna a été réputé sur les moteurs, même au sein de l'écurie McLaren, et Honda, lui, préparait des moteurs spéciaux, mais pour faire des tests et non pas pour essayer de battre Prost.
Alors, quand même, Alain Prost avait vu en fin de saison, en 88, une étiquette sur un moteur Honda spécialement pour Ayrton.
Oui, oui, c'est ça dont je parle. C'est ça.
Alors, deuxième chose, moi, ce qui m'avait étonné quand même en 88, c'est que sur certains Grands Prix, quand même, Prost doit lever le pied parce qu'il a des problèmes de consommation que n'a pas Senna. Et ça, je n'ai jamais trop compris. Et on sait que sur un moteur, il peut y avoir un écart de 2-3 chevaux. Alors, peut-être que le moteur a un tout petit peu plus puissant. Aller à Senna, on mesure ça au banc. Bon, et ça peut faire une différence. On a eu en interview avec nous dans un Fou du Volant, dans un épisode des Fous du Volant, Simon Pagenaud, qui nous disait qu'à Indianapolis, il avait un moteur qui avait un cheval de plus et qu'il avait senti. Ça, c'est incroyable. Alors, bah, quand on donne 2 ou 3 chevaux de plus dans un moteur à Senna, on est garanti qu'il va l'utiliser correctement et qu'il va en tirer toute la quintessence, quoi. Mais cette question de consommation, ça m'avait quand même étonné parce que Prost était réputé pour avoir un pilotage plus souple.
Alors, je vais donner, non pas un secret, mais l'un des moments où l'un et l'autre étaient les plus forts, c'est ce que j'appelle la cadence. Dans un Grand Prix, les pointures comme Senna ou comme Prost, ou comme Hamilton maintenant, ils ont une cadence. Okay, ils savent que, comme si vous mettiez un tableau de marche, mais vous l'avez dans votre tête. Ce n'est pas aux 24 heures du Mans où on passe des temps. Un tableau de marche dans la tête. Et Alain avait une vraie cadence, mais il est tombé 2 fois en panne d'essence. Une fois, notamment en Allemagne, où il était obligé de pousser la voiture. Bon, il aurait pu arriver deuxième. Il n'est pas arrivé. Enfin, il est arrivé loin. Et puis, il y a une fois où, à Imola, où il gagne la course, la voiture est pesée, il manque 4 kilos d'essence. Donc, c'est beaucoup. Il avait respecté ça, tout en étant d'une intelligence formidable de la course, il avait respecté sa cadence, la cadence passée à tel endroit, tel virage, telle vitesse, tel chrono dans la tête. Mais il n'y a jamais un tour qui ressemble à un autre en Formule 1. Il y a toujours un petit détail qui change le tour. Et c'est là où, de temps en temps, il faut reprendre sa cadence et vous consommez un peu plus, un peu moins. Sur les cadences, je vais vous raconter un autre détail. Je crois que je l'avais déjà raconté à Maxime. À Monaco, en 88, quand Senna fait le forcing pour essayer de prendre un tour à Alain Prost, vous savez qu'il bombarde, il bombarde, puis il le laisse, et puis 30 et 40 et 50 secondes, et dans sa radio, il entendait Ron Dennis lui dire « ralentir, 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 ralentir ». Senna, il avait une cadence formidable ce jour-là, formidable. Voilà, il avait Monaco en main, peu importe ce qui pouvait arriver, une cadence formidable. Il a levé le pied pour, allez, 2 ou 3 dixièmes de seconde. Et là, la voiture qui se déportait à chaque fois au même endroit avant la descente vers le portier, eh bien là, elle ne s'est pas déportée. Il touche la roue et il part en sucette, là-bas au fond du portier, il perd la course. Voilà, donc, c'est leur secret, c'était ça. La cadence. Il faut vraiment aligner les tours comme il le faut et avoir ce tableau de marge dans la tête, parce qu'à un moment donné, vous allez perdre du temps parce que vous doublez un retardataire ou il s'est passé quelque chose. Voilà, avoir ça dans la tête. Et là, l'un et l'autre, ils peuvent se ressembler. Dans leur domaine, ils étaient absolument formidables.
Jean-Louis, c'est quoi le déclencheur de... Alors, c'est monté petit à petit, mais ça a été quoi pour toi le déclencheur absolu, le détonateur, on va l'appeler comme ça, entre Prost et Senna? On a parlé d'une séance d'essai en Grande-Bretagne.
Ce qui s'est passé, c'est que Senna n'a pas respecté le contrat qu'ils avaient passé, lui et Alain, au départ du Grand Prix de Saint-Marin à Imola, mais il y a eu un deuxième départ.
C'est ça, au deuxième départ, ouais.
Et peut-être que lui, il a pensé que le contrat n'était plus valable, etc., etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui a vraiment pris parti de façon assez violente là-dessus, c'est Ron Dennis, Stéphane Brignoud l'a évoqué tout à l'heure, il voulait absolument, vous savez qu'il fallait avoir... les 2 paquets de dynamite l'un à côté de l'autre, avec les allumettes, il faut faire attention. Hein. Voilà. Alors, il ne voulait absolument pas une histoire comme ça. Et il a fait la morale à Ayrton. Et Ayrton s'est mis à pleurer. Et Alain nous a raconté ça. Un jour, on est allé en séance d'essai à Pembrey avec lui. Il nous a raconté ça. Et bon, c'était une info tellement forte que mon ami Johnny Reeve n'a pas pu s'empêcher de l'écrire. Et voyant ça, Senna a été absolument mortifié. D'abord, non pas seulement par le fait qu'il ait pleuré, mais surtout par le fait qu'il n'apparaissait pas comme il était, le chevalier magnifique et absolument droit dans ses bottes et impeccable dans sa ligne de conduite. Non, il avait fait un petit truc. Et il s'était fait engueuler. C'était l'élève pris en faute. Et ça, malheureusement, il n'a pas pu le supporter parce que dans son esprit, il voulait ce mousquetaire dont j'ai parlé tout à l'heure, ce type formidable, cet archange, si je puis dire, c'est le terme que j'ai employé quand le jour où il s'est tué, l'archange était par terre. Il voulait être celui-là. Et ça, on dise qu'il ne l'avait pas été une seconde dans sa vie, c'était terrible pour lui.
Et Maxime, je reviens vers toi parce que tu fais souvent référence au cinéma, mais là, non seulement donc, le ton monte en 88 et c'est Senna qui est champion du monde, et puis ensuite, il y a ces deux dénouements en 89 et en 90, dans un sens puis dans l'autre, pour Prost à Suzuka donc en 89 et la revanche de Senna ensuite en 90. Là encore, je vais reprendre ton expression, s'il y a un scénariste qui écrit ça, on va dire oui, bon là, ça va quand même un petit peu loin. À croire que tout était organisé.
Eh oui, c'est vrai que ça ressemble à ça, c'est tellement dingue. Et moi, ce qui me fascine, c'est, on en a parlé de la qualité de pilote, mais la force mentale des deux. Parce que je me mets aussi dans la... Alors, vu de France, je ne sais pas ce qui était, moi, je n'étais pas auprès d'Alain Prost sur Ayrton Senna à l'époque. On a l'impression que Prost est un peu la victime de Honda, de McLaren, que McLaren a préféré Senna parce que c'est l'avenir. Et je me dis, la force psychologique qu'il faut pour résister à ça et arriver à rester droit dans ses bottes, et c'est-à-dire tenir le choc par rapport à ça, moi, c'est quelque chose aussi fascinant, je trouve qu'on ne souligne pas toujours assez. Oui. Parce qu'encore une fois, moi, j'avais lu aussi une interview d'Alain Prost qui datait de novembre 89, au moment où il quitte donc McLaren, dans Paris Match. Mais la violence de l'interview, que je n'imagine même pas ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il il dit carrément ce qu'il pense de l'autre. Et d'assumer aussi cette rivalité, c'est complètement dingue. Et l'assumer, c'est justement revenir à Suzuka. C'est-à-dire que Suzuka 88, alors je vous poserai la question parce que j'ai très envie d'avoir votre avis là-dessus. Moi, je pense que bon, Prost, hop, il ferme la porte bien comme il faut pour que Senna passe pas. Mais c'est
89.
C'est fantastique parce que je trouve que on pousse jusqu'à, ben, je vais pas dire l'absurde, mais jusqu'à son paroxysme la lutte. C'est-à-dire que ben écoute, tu me l'as fait à l'envers depuis le début, et ben à mon tour de te le faire à l'envers. Et je trouve que c'est exceptionnel. Et je me demande quand même aujourd'hui, parce que Alain Prost l'a dit à un moment, j'ai eu envie de lui mettre mon poing dans la gueule. Je me demande comment c'est pas arrivé, vraiment.
Alors, c'est pas arrivé parce qu'il y avait une certaine distance entre eux. La photo qui est célèbre, on les voit tous les deux. Il y a la profondeur de champ. On est assez loin. Non. Alors, moi, je suis d'accord avec Maxime, mais moi, il y a encore un truc encore plus fort qui m'a cisaillé. C'est la conférence de presse de 92 où Senna dit, alors qu'il est, c'est Berger qui a gagné la course, où Senna avoue qu'il l'a fait volontairement. Ouais. Et ça, alors Berger vainqueur, ouais. Senna deuxième, etc. La salle de presse de Suzuka bondée, il n'y avait plus une place assise, il y avait plein de gens debout. Et là, voilà que Ayrton nous balance ce truc-là en pleine figure. Il y a eu un silence de mort dans la salle.
Mais justement, je voulais parler avec toi de ça, Jean-Louis. C'est que Ce duel entre Prost et Senna, évidemment, en France, il y a quand même un côté où c'était Prost le favori. Moi, j'avoue que je suis né en 75, donc ces années-là, je commence à comprendre un petit peu les enjeux. J'arrivais pas à haïr Senna. Il avait un côté rockstar qui était plus séduisant pour un jeune ado que le professeur, même s'il était français. Mais chez les journalistes, moi j'ai quelques-uns de tes collègues qui m'ont dit que c'était chaud aussi entre les journalistes à cette époque, entre les partisans de Prost et les partisans de Senna. Ils ont grossi le trait ou vraiment en salle de presse c'était tendu aussi?
Très franchement, ça je ne vois pas, à moins qu'il y ait eu un ou deux Brésiliens un peu excités qu'on n'ait pas bien
d'accord.
Franchement, je ne vois pas ça. D'ailleurs, je dois rappeler une seule chose, c'est que celui qui a donné le surnom de Magic à Senna, c'est mon ami Johnny Rive dans l'équipe. Et d'ailleurs, Senna lui a toujours su gré de cela. Parce que si Magic, c'est bien lui. Parce que Johnny, comme moi, il voyait le pilotage de Senna. Il dit, c'est pas possible comment il fait. Il est magique. C'est de là que c'est venu. Donc, il n'y avait pas. Donc, on savait très bien que les journalistes faisaient attention à ça. Après, les papiers, ça, c'est autre chose. Mais quand on était en salle de presse, tout ça, non, il n'y a pas eu d'engueulade. Non, très franchement. Non, mais une fois de plus, je vais arriver. Alors, qui était le plus fort et on va les définir l'un et l'autre. Alain, il est arrivé chez McLaren en 84, ok. Niki Lauda est là, ils vont être rivaux, complètement adversaires. Lauda est champion du monde, mais Alain, très intelligemment, il a appris avec Lauda. Il a fait de Lauda son professeur. D'ailleurs, Lauda a dit, de temps en temps, il me regarde, je me demande ce qu'il va. Mais Alain, il apprenait à être ce petit gars de Saint-Chamond qu'on a tous connu, okay, qui ne faisait pas tellement attention, machin, etc., à être le Alain Prost qu'on connaît, déjeuner avec l'ambassadeur d'Angleterre à Paris, convié à la cour d'Angleterre, etc., etc. Et pas arrivant avec des chaussures protégées comme un plouc. Non, il était devenu à la poste un grand champion de chez McLaren. Et ça, c'était son origine et, je pense, l'une de ses marques de fabrique formidables. Et il a appris beaucoup de Lauda. Tandis que Senna, quand il est arrivé chez McLaren, lui, il ne s'occupait pas de ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était cisailler l'autre. Ça, et comme Alain l'a très justement raconté, il était la cible et c'était vrai. Et Senna, lui, il a pas du tout appris même de Prost. Il s'estimait supérieur dans ce domaine-là et il voulait le shooter. Bon, ben voilà, c'était comme ça que la guerre a été déclarée finalement.
Oui, tout à fait, Jean-Louis. J'y pensais en t'écoutant. D'ailleurs, en termes de réglage, c'est Prost qui faisait le setup de la voiture. Senna qui le reprenait souvent intégralement jusqu'à peu près jusqu'à Spa, je crois, en 88, où Prost a dit « j'en ai marre de lui filer mes réglages parce que je lui donne mes réglages et il me bat avec. Donc, débrouille-toi comme ça. » Et Senna est allé au bout parce qu'il avait de l'avance. Ce qui me surprend, en fait, chez Prost, finalement, c'est une forme de naïveté qu'il a eue à faire venir Senna, parce que c'est introduire le loup dans la bergerie. C'est conclure un pacte. En 88, c'est lui qui en parle en premier avec Senna de cette histoire de « ils sont tellement dominateurs qu'ils veulent signer des doublés à chaque fois ». Et Prost propose à Senna de dire « le premier au premier virage, en fait, à la voie libre et le deuxième ne l'attaque pas ». Et ils mettent ça de côté au début de la saison 89. Et puis Senna lui reparle de ça à Imola. Prost ne se méfie pas du tout. Et il lui fait un coup de jarnac sur le deuxième départ. Et Senna dit « non, mais ça ne comptait pas, il y avait un premier départ ». Et Prost arrive presque, je ne dirais pas lentement, entre guillemets, parce que Prost ne roulait pas lentement, mais il ne s'est pas méfié. Et Senna était toujours dans la méfiance et Prost était toujours dans l'ouverture. Et avait… comment dirais-je, une forme de bonhomie là-dessus. C'est, il croyait en la bonté de l'autre. Et là, sur Senna, il fallait se méfier parce que Senna, lui, il avait un seul objectif. Et ça nous amène aussi à l'accrochage de Suzuka, parce qu'à Suzuka, pendant 47 tours, Prost tient Senna derrière lui. Mais il a 10 mètres derrière. Il faut réaliser ce que c'est, la pression que ça représente. Et Maxime, tu disais, avoir quelqu'un comme ça qui met tout le temps la pression, qui a une forme d'agressivité, finalement, il faut pouvoir encaisser les coups, c'est quand même fou. Et Prost, sur son tableau de bord, il n'avait rien du tout d'affiché, il passait ses vitesses à l'oreille parce qu'il avait plus d'informations du contour, et il disait « mais non, je tenais Senna derrière moi, il n'y avait pas de problème, et je me serais juste méfié sur les derniers tours parce que je pensais qu'il allait faire une grosse attaque. » Et l'attaque est venue plus tôt, et cet accrochage est arrivé, encore une fois, par une forme de naïveté qu'avait Prost, qui ne se méfiait pas assez de Senna. C'était ça aussi qu'il y avait en termes de différence et d'approche du métier, de personnalité qui tranchait entre les deux.
Après, sur l'accrochage en lui-même, il est moins naïf parce que ce qu'il dit après, c'est qu'il dit « ok, j'ai peut-être tourné un peu tôt, mais c'était mon virage ». Donc voilà.
Ouais, mais tu regardes surtout sur les caméras embarquées, Prost donne un petit coup d'œil dans son rétroviseur. Au moment où il va braquer, il check que Senna est là et il continue de braquer. Donc, bon, c'est son jeu, il n'y a pas de problème, il a la priorité, il est bien placé pour le virage, Senna est très très loin derrière, mais quand il fait ça, il dit « j'y vais mon gars ». Et si tu veux t'infiltrer, tu y vas, mais on ne va pas sortir tous les deux du virage intact. C'est ce qui s'est passé.
Je suis assez d'accord avec cette théorie. Ma théorie de Suzuka 89, c'est qu'Alain, en regardant son rétroviseur, alors déjà, quand même, Alain, il est très fort. Hein, parce que quand un pilote se met à regarder dans les rétroviseurs, on voit dans nos années de Formule 1 moderne que souvent, ça, on court à la bêtise directe. Il le regardait. Et moi, je pense qu'il l'a amené tranquillement dans un piège. Il l'a amené dans un piège. Tout doucement. Et se rapproche. Et à un moment donné, Senna dit « bon, je passe là ». Là, Alain, impossible. Peut-être qu'il a dit « c'est mon virage ». C'est vrai, je ne le sais pas. J'étais à Suzuka, mais il y avait une telle ambiance que bon, c'était… Parce qu'après, il y a eu la course au fait que l'un allait être disqualifié et tout. Et quand vous êtes journaliste, il faut suivre tout ça. Hein. C'est des Grands Prix où vous sortez de la salle de presse, il est minuit, il n'est pas du tout 10h du soir. Hein.
Oui, parce qu'accessoirement, on est en 89 et il n'y a pas encore tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui.
Par exemple. Alors donc ça c'était ça. Alors ça c'est alors ce que j'appelle un incident de course. Je reviens sur Suzuka 90. Là c'est un accident. Ils auraient pu se faire mal et l'un et l'autre. Là c'est là il est allé fort parce que Alain peut se faire mal, mais Senna peut prendre des éclats de ferraille en pleine tête. Hein. Et donc ça c'est alors pour moi c'est l'accident d'avion par excellence. Et donc voilà c'est la différence entre les deux choses.
Et j'en viens aussi à cette forme de naïveté qu'il y avait parce que on a finalement mis aussi en opposition le monde de Senna et le monde de Prost. Prost qui avait le président de la FISA, donc qui était la branche sport de la FIA à l'époque. Mm-hmm. Et en 89, Balestre est sur place à Suzuka pour régler le différend de Senna, donc qui prend un prétexte, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il a coupé la chicane, donc il n'a pas fait la distance totale du Grand Prix, donc il doit disqualifier pour ça. Enfin, c'est complètement sordide. Et en 90, en fait, Balestre ne va pas à Suzuka alors que ça sent le soufre. Et Balestre, il est au téléphone en fait pour expliquer ce qui s'est passé entre Prost et Senna le matin du Grand Prix à Suzuka. Il a dit « j'ai fait l'erreur de ne pas y aller parce que j'y serais allé, je serais sur place, j'aurais redonné un départ. » Et à l'époque, il y avait démulé pour ça et on aurait fait la course et on aurait eu un vrai Grand Prix. Et Prost a dit « moi, si je sortais en tête du premier virage, Senna ne me revoyait jamais. »
Puis Balestre, alors, c'est l'acteur majeur aussi, le troisième homme qui vient, mais c'est un peu le chien dans le jockey, c'est-à-dire qu'il y a les deux qui sont en face et Senna qui est persuadé que Balestre est évidemment pro-Prost. On parlait de Suzuka tout à l'heure, sur la deuxième fois, il veut changer le côté de la pole position qui est sur la partie sale. On lui dit en gros oui, mais le dernier moment, on rechange pour le mettre sur la partie sale. Donc lui, il est tout le temps persuadé, et on en parlait de Monaco tout à l'heure, qu'il est persuadé d'être le petit et qui se bat aussi contre des, je ne vais pas dire des moulins à vent, mais non, contre des forces qui sont beaucoup plus puissantes que lui. Et c'est vrai qu'entre le premier Suzuka, le premier accrochage de Suzuka, le début de la saison après, ça va aussi ruer dans les brancards parce qu'il y a une espèce de jeu d'orgueil entre lui et Balestre, avec Prost qui est de l'autre côté, dont il est persuadé que Balestre roule pour lui.
Je crois, Maxime, je t'ai déjà raconté ça. Je te dis ça, c'est vrai, Balestre est intervenu, etc. Mais en fait, tu sais comme moi que quand tu es dans ta Formule 1, au moment du départ, pendant la course à l'arrivée, Balestre n'est pas là. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même un peu minimiser ce que j'appelle les rodomontades de Balestre, qui par ailleurs fait des choses très bien pour la F1, hein. La cellule de survie, on l'a vu avec Grosjean à Varennes, hein. C'est quand même Balestre qui a imposé ça. Je reviens en arrière, là, il était là ce jour-là, il n'était pas en 90, mais sincèrement, très sincèrement, les deux pilotes savaient exactement ce qu'ils faisaient, Balestre ou pas Balestre. Donc ça, je n'en veux pas à Balestre pour ça. Il avait beau faire tout ce qu'il voulait, les deux pilotes sont seuls décideurs avec l'équipe quand ils sont à bord de la voiture. Voilà ce que je voulais dire. Mais ça, je te l'ai déjà dit, Maxime.
Ensuite, on va avancer un petit peu parce qu'il va bientôt falloir conclure. Il y a la retraite d'Alain Prost. Et Jean-Louis, vous êtes dans l'équipe de TF1 quand Ayrton Senna passe le message ce funeste matin du 1er mai 1994 en disant à Alain Prost « tu me manques ».
Oui. Et, ah, mais c'était fou parce que je crois que ça dénote une fois de plus. Alors, ce message enregistré vendredi, j'ai déjà raconté ça, je le raconte en deux secondes. Moi, j'étais chargé là-dessus de mettre des vrais bruits parce que Senna faisait ça en démarrant des stands. Il faisait, c'était un contrat avec TF1 signé par l'intermédiaire de Renault pour donner, et Williams donc, pour donner le ton sur le circuit. Voilà, ici, on passe telle vitesse. Bon, alors, Senna, déjà, dans son tour de démarrage, il a déjà pas si mal que ça. Et donc, j'ai été chargé de mettre des bons sons sur le son du moteur, hein, je veux dire. Bon. Et donc, il fait ça. Et donc, on enregistre ça le vendredi. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le monte ou pas, etc. On est quand même allé voir Senna pour dire ça. Et je pense que notre producteur, à l'époque, s'est fait rembarrer par Senna, qui lui a dit qu'il n'avait pas l'habitude de plaisanter comme ça. Donc, bon, voilà. Et puis, donc, on l'a mis, et c'est un message qui, effectivement, a fait le tour du monde, mais il décrit tout à fait Senna. C'est-à-dire que sans Alain, c'est ce que le thème même de votre émission aujourd'hui, sans Alain, il se sentait diminué. Il n'avait plus ce combat, ce seul pilote, son vis-à-vis, qui était là. Il n'était plus là, et derrière, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait peut-être Schumacher qui allait arriver.
C'est ce que j'allais dire.
Oui, mais pour l'instant, il n'intéressait pas Senna.
J'aurais bien voulu les voir les deux face à face.
Évidemment. Mais pour Senna, ça c'était pas. Oui, Schumacher, oui, peut-être, mais non. Alain lui manquait terriblement, ne serait-ce que pour pouvoir rivaliser avec lui encore. Ou pour parler. là où ils parlaient beaucoup l'un et l'autre, après le départ d'Alain, d'ailleurs, je vous signale que le premier geste de réconciliation, c'est quand même Senna qui le fait, sur le podium en Australie, qu'il le prend, il le met à ses côtés, il fait son truc, etc. Il était très fort pour ça, Senna, même s'il n'était pas tout à fait vrai pour lui, c'était important de le montrer. Important de montrer que Alain avait été là tout le temps, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il parlait beaucoup de sécurité et que la maraude de Senna était que Alain devait non seulement prendre la tête du GPDA, mais mieux encore, prendre un rôle à la Fédération internationale de l'automobile pour la sécurité des pilotes. Alain n'avait pas du tout envie. Hein. Il venait de passer, je ne sais pas combien d'années en Formule 1, du 1980. Donc voilà, il voulait aspirer à un autre monde, ou en tout cas à une autre aspiration. Mais Senna lui parlait tout le temps sur chaque circuit, tu vois, on aurait pu faire ça, on pouvait faire ça, etc. etc. Et c'était comme ça qu'ils sont devenus à nouveau, je dirais, dans la paix retrouvée. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai raconté aussi à Maxime, ça, les deux motorhomes, Renault et Williams, c'était face à face dans le paddock d'Imola, l'un voulait voir l'autre voulait voir l'un, ils n'ont pas pu se rencontrer, il a fallu qu'au dernier moment, au moment où Alain quittait le motorhome pour aller dans la cabine de commentaires de TF1, sur la grille de départ, pardon, je dis une bêtise, sur la grille de départ, et au moment où Senna lui sortait, il se tape dans la main, bon, on se verra après le Grand Prix sans doute, et Senna est parti dans sa voiture, et ça a été fini. Voilà, c'était terminé entre eux, ils ne se sont plus jamais revus.
Dans l'intimité, je sais que vous connaissez très très bien Alain Prost, comment est-ce qu'il a vécu la disparition de son... Comment je peux dire son...
Son alter ego,
quelque chose comme ça.
Déjà dans la cabine de commentaires, ça a été terrible. Et ça, je crois que je l'ai raconté. Je parle plutôt à Stéphane Rio. Il faut penser que j'avais à ma gauche Johnny Reeve, à ma droite Alain. Ils se sont éteints tous les deux. Ils se sont éteints. Vous savez ce que c'est, pas vous, je vais raconter. Vous faites de la télé. Ce qu'il faut tenir sur un commentaire tout seul. Et Pierre Van Vliet, il était dans les stands. Il n'avait pas grand chose à dire. Tout le monde était, c'était à feu et à sang dans ce paddock, et donc tout seul, faut tenir le commentaire. D'ailleurs, il y a eu des commentaires après sympas en disant que si les commentateurs doivent s'arrêter, il faut que les images s'arrêtent au préalable, et les images ne se sont pas arrêtées, c'est comme vous le savez. Et donc c'était ça l'histoire. Et Alain, déjà là, il était rétabli. Il y a un moment donné, il fait une grimace, je crois qu'il a vu tout de suite que c'était un accident fatal, je crois qu'il l'a vu. Mais en tout cas, bon, et puis après, c'était les jours qui ont suivi, ça a été très compliqué, parce qu'il a fallu aller à l'enterrement d'Ayrton, au cimetière de Morumbi, et il faut rappeler une anecdote que je rappelle souvent, que j'ai peut-être dit à Maxime déjà, à savoir que le seul pilote qui était admis dans la famille Senna, dans la propriété des Senna, en dehors de San Paolo, c'est Alain, c'est personne d'autre. C'est même pas Berger, qui était quand même son copain et tout, c'est même pas les autres, c'est Alain. Et donc, ça voulait dire quand même quelque chose. Ça voulait dire que ça m'éblouit de la part de Senna, ça voulait dire que quand il rentrait chez lui, il redevenait le Senna, hyper sympa, machin, etc. Oh, je lui ai pas encore cassé la figure à ce Français, etc. Mais après, voilà. Il en parlait à sa famille. Il devait certainement lui en parler en disant, franchement, vous me casse les pieds.
Oui, il me rend fou.
Comme
oui.
Ça. Voilà, j'en ai assez de ce gars-là, parce que pour que Alain soit le seul de la famille à venir dans la propriété des Sénats. Ouais. Et puis ensuite ce qu'on appelle tenir les cordons du cercueil. Un Morumbi.
Pour se donner une image de ce qu'est Senna, alors pour les plus jeunes qui n'ont pas forcément vu ça, il faut regarder les images des funérailles de Senna.
Oui.
C'est exceptionnel. Oui. Je pense qu'au Brésil, si Pelé, le jour où il mourra, ce sera à peu près l'équivalent. Mais il y a quelque chose de fantastique dans le sens premier du terme, c'est-à-dire cette foule qui est incroyable. Et je refais l'analogie avec la musique. C'est une rockstar qui meurt. Alors lui, c'est pas 27 ans, c'est 34 ans. C'est Jim Morrison. C'est ça. Et toute l'image qu'on a, je pense, le regard qu'on a aussi sur les deux post-mortem est lié aussi à cette mort jeune. C'est pas James Dean, mais il y a quelque chose de là. Et tout ce qui touche à Senna, qui est mythifié, son casque. Alors, rien que sa casquette, je me faisais la réflexion la dernière fois, sa casquette nationale bleue là. C'est un objet mythique. Voilà. C'est dingue cette espèce de magnétisme qu'il y a autour de lui.
Ouais. Je suis d'accord.
Ouais. Maxime, si, il y a des sondages qui sont réalisés de temps à autre au Brésil pour connaître l'icône du sport. Et en fait, le sondage, il est sur le deuxième, sur le troisième, sur les suivants, parce que Senna est au-dessus et sera toujours au-dessus. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il se situe Pelé, mais ils avaient dit, les Brésiliens, que Senna les avait rendus fiers. Voilà. Alors qu'il y avait déjà une culture de la Formule 1 qui était installée depuis 10 ans avec Fittipaldi, avec Piquet. Mais Senna, ça a été une déflagration, ça a été autre chose. C'était la voix du peuple, la voix de tout le monde. Et puis courir à Sao Paulo, il faut savoir ce que c'était, cet environnement. Bon, c'est quelqu'un aussi qui faisait la promotion du Brésil, parce qu'on a parlé des deux Senna, finalement, sur les pistes et en dehors, quand il était au sein de sa famille. Quand on avait les photos, il était souriant, il était détendu, c'était autre chose, c'était peut-être le vrai Senna.
Il y a quelque chose qui ne se définit pas, c'est son charisme, c'est sa beauté aussi, simplement, il est magnétique, c'est-à-dire, vous voyez Senna sur une photo, il y a quelque chose, ça ne se définit pas, il est magnétique.
Et c'est un charisme au vrai sens du terme, et pas un charisme qu'on colle parfois comme caractéristique à certains pilotes d'aujourd'hui qui ne le sont absolument pas, qui sont un peu énigmatiques, mais qui n'ont pas grand-chose à dire. Mais Senna, c'était un écorché vif. C'est quelqu'un qui vivait sur le fil du rasoir. Il partait dans sa voiture, c'était piloté pour réaliser son rêve, sa vie, sa passion. C'était pas autre chose. Et certains lui reprochaient de ne pas avoir autre chose dans sa vie, mais piloter, c'était sa vie.
Alors, une anecdote, mais je crois que Maxime l'a relevé. Dans tout ce qui s'est écrit autour de Senna et des gens qui ne connaissaient pas Senna, on oublie toujours quelque chose d'important, le casque jaune. Le casque jaune en course, c'était… il a eu pour ça deux ou trois accidents, Senna, pour montrer qu'on ne pouvait pas lui résister impunément. Donc après, quand on voit le casque jaune dans le rétroviseur, le casque jaune, c'était lui. Et il n'y en avait pas d'autre. Et ça, c'est quand même important. Et puis, je reviens sur… l'histoire de l'archange, je l'appelle une fois comme ça, parce que dans mon papier de l'autojournal, voilà, j'ai dit que les commissaires arrivent et qu'est-ce qu'ils voient ? L'archange est à terre. Il y a un très grand dessinateur dans l'équipe qui s'appelait Chénèze, que vous avez peut-être tous connu, etc. Et j'ai dit un jour à Chénèze, mais c'est incroyable, tu fais toujours Prost, tu ne fais jamais Senna. Mais il me dit, parce que Senna, il n'y a rien à raconter sur son visage, il est beau. Regarde, il a le nez comme ça, il a les cheveux comme ça, il a une barbe pourrie, etc. Lui, on peut dire quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai dans ce bureau le dessin de la une de l'équipe que Chénèze m'a offert. Je lui ai dit, je te l'achète. Non, il dit, je te l'offre. Il me l'a offert. C'est ça, c'est Prost qui est sur une espèce de quai avec un soleil qui se reflète au loin dans la mer. Voilà, son soleil vient de se coucher. C'était ça. Et ça, c'est magnifique. Mais voilà, Senna, le beau garçon, bien éduqué, noble, tout ça, alors qu'Alain, il vient de rien. Alain, je l'ai dit au début de ce reportage, sa marque de fabrique, c'est de s'être élevé de ce niveau-là. Mais tandis que Senna, non, il était déjà là, un seigneur. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Mais beau garçon, charismatique, les filles étaient amoureuses de lui, bref, les garçons aussi. Bref, c'était le truc, voilà, c'était l'archange.
Et pour conclure, puisqu'on se posait la question qui est le plus fort, je crois qu'on conviendra tous les trois. C'est une façon de ne pas répondre, mais c'est impossible de répondre à cette question. Il n'aurait pas été aussi fort s'il n'y avait pas eu l'autre. On est bien d'accord.
Peut-être que ça n'aurait pas été intéressé Senna de continuer à être le roi du monde tout seul. Ça, c'est sûr. Peut-être que dans son esprit, c'était ça. Mais peut-être que Alain. Lui, il a cherché avec peut-être la naïveté dont parlait tout à l'heure Stéphane. Il a continué à chercher à la bagarre, à s'imposer, à essayer de s'imposer, puis s'imposer. Okay. Alors, malgré tout, je ne vais pas parler chiffres, mais parce qu'il y en a un qui est 4 fois champion du monde et l'autre 3 fois seulement, mais ça, je ne vais pas en parler. Ce que je veux dire, je crois que je l'ai déjà dit à Maxime, il y a quand même une dernière victoire d'Alain, c'est qu'il est resté en vie. Et pour moi, ça aussi, c'est une des plus belles victoires qu'il a eues dans sa carrière. Parce que voilà, à force de s'attaquer à tout le monde, etc., Senna y a laissé, non pas son âme, bien entendu, mais sa vie aussi. Et donc, voilà, il était Senna et il est resté Senna dans l'esprit de tous ceux qui aiment la compétition automobile.
Je reviens très vite sur les chiffres, mais c'est vrai que vaut peut-être mieux gagner 7 titres à 2 comme ils l'ont fait que 7 titres tout seul et de se retrouver à lutter tout seul, parce que finalement, c'est vraiment plus que Senna est vraiment un contre-exemple de l'histoire du sport comme on la voit aujourd'hui à travers les chiffres, c'est-à-dire que ah bah oui, le plus grand, celui qui gagne le plus. bah, Senna, ce n'est pas celui qui a gagné le plus de Grand Prix, ce n'est pas celui qui a gagné le plus de titres mondiaux. Mais oui. N'empêche que si vous faites un classement, je pense qu'il revient globalement souvent dans les peut-être deux, trois premiers ou un ou deux. Voilà.
Gilles, un dernier point.
Ça sera le mot de la fin.
Non, l'intelligence de la course, la vision générale de la course, elle est pour Alain. Le pilotage le plus pur, le plus tendu, le plus dangereux, je vais dire, c'est Ayrton.
Ça vous va, Stéphane, Maxime? On reste là-dessus?
On reste là-dessus.
On reste là-dessus, oui. Senna qui aimait faire la course en tête. C'est l'image qu'on a gardée, malheureusement. Et puis Prost, le tacticien, qui était un peu plus en retrait, qui construisait différemment ses courses. Ils étaient différents, c'est pour ça qu'on les a aimés. Ils étaient complémentaires aussi.
Et moi, il y avait une phrase, je suis désolé, j'ai rajouté un dernier truc, qui m'a fasciné de Prost, c'est qu'il raconte qu'il avait dit à Frank Williams que lui, son but, c'est de piloter à 95%.
Ouais. Oui, absolument.
Un pilote qui vous dit ça, ça paraît aux antipodes de la logique de la course automobile, mais non, c'est une autre manière de gagner, de maximiser, de penser qu'une course de F1, c'est un sprint qui ressemble pas loin d'être un marathon. Et ça, Prost l'avait compris, et c'est presque... Alors, je ne sais pas si c'est plus remarquable, mais il y a quelque chose de remarquable de dire qu'on peut construire cette course-là en s'économisant et gagner dans un sport de vitesse en s'économisant.
Alors, je vais rajouter un dernier mot. Je n'ai jamais oublié que Prost est né à côté de Saint-Étienne. Les monts du Forez, la Haute-Loire, etc., c'est des gens durs. Durs. Des durs à suivre. C'est comme ça que ça se passe.
Merci beaucoup, Jean-Louis, d'avoir été avec nous et de nous avoir raconté cette histoire de l'intérieur. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. On vous le redit, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner, comme ça la prochaine fois qu'on en fera un nouvel épisode de C'est qui le plus fort, eh bien vous le recevrez directement sur votre smartphone. Je vous renvoie en tout cas une nouvelle fois à ce grand récit écrit par Maxime Dupuis, Alain Prost, Ayrton Senna, la guerre à 300 km/h. Et je te conseille même, Jean-Louis, d'aller voir sur le site eurosport.fr les grands récits, tu vas voir, c'est passionnant et ça ne parle pas évidemment que de sport mécanique, hein, ça parle de boxe et même d'athlètes qu'on a absolument complètement oubliés et c'est des histoires absolument phénoménales. Merci beaucoup à vous.
D'accord, Gilles.
Il y en a quand même quelques-uns sur la F1.
Oui.
À bientôt. Portez-vous bien les enfants.
Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.
Au revoir.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.